Il était alors 6 heures du soir, le soleil n'avait encore parcouru que les 4/5 de sa course. Très certainement, le Glengarry serait arrivé à Oban avant que l'astre du jour ne se fût couché dans les eaux de l'Atlantique. Miss Campbell était donc fondée à croire que ses vœux seraient comblés ce soir même. En effet, le ciel sans nuages ni vapeurs semblait fait exprès pour l'observation du phénomène, et l'horizon de mer devait rester visible entre les îles Oronce, Colonce, Mol pendant cette dernière partie de la traversée. Mais un incident très imprévu allait quelque peu retarder la marche du steamer. Miss Campbell, possédée par son idée fixe, immobile à la même place, ne perdait pas de vue la ligne circulaire qui se tendait entre les deux îles. À l'affleurement du ciel, la réverbération dessinait un triangle d'argent dont les dernières nuances venaient mourir au flanc du Glengarry. Sans doute Miss Campbell était la seule à bord dont les regards fussent obstinément fixés sur cette partie de l'horizon. Aussi fut-elle la seule qui remarqua combien la mer semblait être agitée entre la pointe et l'île Scarba. En même temps, un bruit lointain de lames entrechoquées arrivait jusqu'à elle. Cependant, c'était à peine si la brise soulevait quelques rides sur les eaux presque visqueuses tant elle était calme que coupait l'entrave du steamer. « D'où viennent donc ce trouble et ce bruit ?» demanda Miss Campbell en s'adressant à ses oncles. Les frères Melville eussent été fort empêchés de lui répondre car ils ne comprenaient pas plus qu'elle ce qui se passait de là, à 3 000, dans l'étroite passe. Miss Campbell, s'adressant alors au capitaine du Glengarry, qui se promenait sur la passerelle, lui demanda quelle était la cause de ce fracas des eaux et de leur agitation. « Un simple phénomène de marée, » répondit le capitaine. « Ce que vous entendez, c'est le bruit du gouffre de Corrivrekan. » « Mais le temps est magnifique, » fit observer Miss Campbell, « et c'est à peine si la brise se fait sentir. »«
Aussi ce phénomène ne dépend-il point du temps, » répondit le capitaine. « C'est un effet de la mer montante qui, au sortir du Jura Sund, ne trouve d'issue qu'entre les deux îles de Jura et de Scarba. De là vient que le flot s'y précipite avec une violence extrême, il serait fort dangereux à une embarcation de petit tonnage de s'y aventurer. »
Le gouffre de Corrivrekan, justement redouté dans ces parages, est cité comme l'un des plus curieux endroits de l'archipel des Hébrides. Peut-être pourrait-on le comparer au Ras de Sein, formé par le rétrécissement de la mer entre la chaussée de ce nom et la baie des Trépassés sur la côte de Bretagne, et au Ras Blanchard à travers lequel se déversent les eaux de la Manche, entre Aurigny et la terre de Cherbourg. La légende affirme qu'il doit son nom à un prince scandinave, dont le navire y périt dans les temps celtiques. En réalité, c'est un passage dangereux, où bien des bâtiments ont été entraînés à leur perte, et qui, pour la mauvaise réputation de ses courants, peut le disputer au sinistre maelstrom des côtes de Norvège. Cependant, Miss Campbell ne cessait de regarder les violentes fluctuations de ce rat, lorsque son attention fut plus particulièrement attirée sur un point du détroit. Là, on aurait pu croire qu'un roc émergeait au milieu de la passe si sa masse ne se fût élevée et abaissée avec les ondulations de la houle.
« Voyez, voyez, capitaine !» dit Miss Campbell. « Si ce n'est pas un rocher, qu'est-ce donc ?»«
En effet, » répondit le capitaine, « ce ne peut être qu'une épave entraînée par les courants, ou plutôt... » Et prenant sa lunette,
« une embarcation !» s'écria-t-il.
« Une embarcation ?» répondit Miss Campbell.
« Oui, je ne me trompe pas. Une chaloupe en perdition sur les eaux du Corrivrekan. »
À ces paroles du capitaine, les passagers s'étaient aussitôt portés sur la passerelle. Ils regardaient dans la direction du gouffre. Qu'une embarcation eût été entraînée dans la passe, il n'y avait plus aucun doute possible. Prise par les courants de la marée montante, engagée dans l'attraction des remous, elle courait à une perte certaine. Tous les regards étaient fixés sur ce point du gouffre, à 4 ou 5 000 du Glengarry.
« Ce n'est probablement qu'une chaloupe en dérive !» fit observer un des passagers.
« Mais non, j'aperçois un homme !» répondit un autre.
« Un homme ?
Deux hommes !»
s'écria Patridge, qui était venu se placer près de Miss Campbell.
En effet,
Il y avait là deux hommes. Ils n'étaient plus maîtres de cette embarcation. Avec le peu de brise qui venait de terre, leur voile n'aurait pu les tirer des remous et les avirons eussent été impuissants à les rejeter hors de l'attraction du corps Evrecan.
« Capitaine !» s'écria Miss Campbell. « Nous ne pouvons laisser périr ces malheureux. Ils sont perdus si on les abandonne à eux-mêmes. Il faut aller à leur secours, il le faut !»
Tous à bord avaient la même pensée et tous attendaient la réponse du capitaine.
« Le Glengarry, dit celui-ci, ne peut s'aventurer jusqu'au milieu du corps Evrecan.
Mais peut-être en se rapprochant arriverait-il à portée de cette chaloupe. » Et se retournant vers les passagers, il semblait leur demander un signe d'approbation.
Miss Campbell alla vers lui. « Il le faut, capitaine, il le faut !» s'écria-t-elle d'une voix ardente. « Mes compagnons de voyage le voudront comme moi. Il s'agit de la vie de deux hommes que vous pourrez peut-être sauver. Oh, capitaine, je vous en prie !»«
Oui !» « Oui !» s'écrièrent quelques-uns des passagers émus par la chaleureuse intervention de cette jeune fille. Le capitaine reprit sa lunette, observa attentivement la direction des courants de la passe, puis s'adressant à l'homme de barre posté près de lui sur la passerelle.
« Attention à gouverner » dit-il. « La barre à tribord !»
Sous l'action du gouvernail, le steamer mit le cap à l'ouest. Le mécanicien reçut l'ordre de forcer de vapeur et le Glengarry ne tarda pas à laisser sur la gauche la pointe de l'île Jura. Personne ne parlait à bord. Tous les yeux étaient anxieusement fixés sur l'embarcation qui devenait plus visible. Ce n'était qu'une petite chaloupe de pêche dont le mât avait été amené afin d'éviter le contre-coup des secousses provoquées par le choc violent des lames. Des deux hommes qui se trouvaient dans cette chaloupe, l'un était étendu à l'arrière. L'autre, faisant force de rame, essayait de sortir du centre d'attraction des eaux. S'il n'y réussissait pas, tous deux étaient perdus.